Le Seigneur me remue encore avec Rabat. Vous rappelez, pour ceux qui étaient là, que j'avais parlé de Rabat. On avait lu le texte dans Josué 2. Cette jeune femme qui était prostituée, qui faisait partie d'un peuple impur, qui méprisait Dieu, qui n'en avait rien à faire, qui faisait des sacrifices, des sacrifices d'êtres humains au faux Dieu, qui était rebelle, qui avait de la violence au milieu d'eux, et que Dieu avait voué désormais à la destruction. Et cette femme prostituée, ben Dieu l'a choisie pour qu'elle puisse être le témoin que les espions avaient besoin, pour qu'elle puisse être sauvée avec toute sa famille, tous ceux qui leur appartenaient, qu'elle puisse faire partie du peuple de Dieu et avoir une destinée. Et donc vous rappelez les trois points particuliers que j'avais retenus, et c'était le choix. Dieu l'avait choisi, Dieu nous a choisis. C'est par grâce que nous sommes sauvés, rien ne vient de nous, tout est le don de Dieu. Dieu nous a choisis, même si on ne comprend pas tout, on relève du choix de Dieu. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a voulu. C'est pas toi qui as voulu Dieu, c'est Dieu qui t'a voulu. Dieu t'a cherché. Et au contraire, nous, on est des très forts résistants. On a beaucoup résisté. Et il a fallu que Dieu mette le paquet pour qu'on soit à lui. Deuxièmement, Dieu, elle a connu elle a eu la révélation du sang. Elle a eu le cordon cramoisi à mettre à la fenêtre. Et c'était une révélation du sang. Elle sait qu'elle était sauvée par le sang. Il y a eu du sang versé. Même là, pour elle, on lui a. Je pense qu'après, le peuple d'Israël lui a expliqué que le cramoisi, c'est la couleur du sang. Il lui a expliqué qu'il fallait des sacrifices d'animaux pour être juste, pour être sauvé. Qu'Israël a dû quitter l'Égypte grâce au sang versé mis sur les linteaux. Et c'est le symbole du sang que l'on verse, que l'on met par la foi sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur nos biens. Le troisième, c'était la gloire, le fait qu'elle était destinée à la gloire. Et je veux revenir là-dessus. Pourquoi elle était, qu'est-ce qui me fait dire qu'elle était destinée à la gloire? Si on relit la généalogie de Jésus dans Matthieu, on voit que le papa de David, c'est Isaïe. Isaïe était le fils de Ruth, une femme moabite importée de l'étranger, hein, ce n'était pas une pure israélite. Et que Boaz était le fils de Rahab. Boaz était le fils de Rahab. Ça veut dire que Boaz, qui était un mari qui était bon, qui a trouvé Ruth, qui l'a prise sous son aile, qui l'a aimée, qui a pris soin d'elle, qui a utilisé son droit de rachat pour la sauver, c'est parce qu'il a été élevé par cette femme, Rahab. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rahab? Rahab, c'est comme si on lit dans Éphésiens 2. Vous pouvez le lire avec moi, si j'arrive à lire avec mes lunettes qui sont un peu vieilles. Donc Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. C'est lui, nous sommes son œuvre, son chef-d'œuvre, son poème, hein, vous rappelez. Nous avons été créés en Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous pratiquions. Et c'est là ce que je veux dire maintenant. Souvenez-vous donc de ceci, verset 11. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était Rahab. Rahab, elle était comme ça. Elle était sans Seigneur, sans Dieu, privée elle n'avait aucun droit de cité en Israël, sans promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et même parmi son propre peuple, qui était déjà un peuple rejeté de Dieu, elle devait être elle-même encore rejetée. C'était vraiment du rebut. Elle était vraiment rien de rien. Et voilà que Dieu va la chercher. C'est elle que Dieu choisit. J'avais dit, les espions, ça aura suffi que Rahab leur parle. Ils n'ont même pas été voir d'autres personnes, quoi que ce soit. Un seul témoignage, parce qu'ils ont reconnu le témoignage du Seigneur. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenu proche par le sang de Christ. Elle a découvert le sang. Elle sait qu'elle a été rapprochée. Et nous sommes comme Rahab. Nous sommes ces étrangers, ces sans cité, ces sans promesse, ces sans Dieu dans le monde, ces sans Christ, ces sans avenir, ces sans espérance, ces sans abri. Hein, on était sans de tout. On n'avait rien. Sans, sans, sans. Et on a découvert le sang. Et c'est par le sang que notre sans rien est devenu tout. Amen. Maintenant, on a tout. En Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est par lui, il est notre paix. Ainsi, au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens des étrangers, ni des gens de passage, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et c'est ce que Rahab a vécu. Rahab, elle est notre témoin. Elle est celle qui personnalise ce qu'on a vécu. Elle est devenue membre de la maison de Dieu, membre de la famille céleste. Mais alors, ce n'est pas fini, parce que alors, nous, on se dit, Rahab, elle est rentrée en Israël, qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a dû devenir occuper peut-être une des dernières tentes du peuple aux confins, là-bas derrière, au bord de... Vous savez que le peuple d'Israël occupait des tentes, hein, ça occupait des kilomètres carrés, vous imaginez, le million d'habitants. Elle devait être une des dernières tentes près d'une frontière pas très intéressante. Ça, c'est notre image. Et quand on lit la généalogie de Matthieu, on s'aperçoit qu'elle est la fille, elle a épousé Salma, qui est fils de Nachon. Et Nachon, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas le premier venu. Quand on lit dans 1 Chronique 2, excusez-moi si je redis, mais je sens que c'est vraiment important, au verset 11, non, verset 10, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon. Et alors, qu'est-ce qui a marqué? C'est presque jamais marqué autrement. Hein. Nachon, prince de Juda. Et je m'étais préparé le... Ah, je m'étais... Oui, c'est pas grave. J'avais sorti le bâton de Juda. Hein. Prince de Juda, ça signifiait que Nachon était le chef de toute la tribu de Juda. Ça veut dire qu'il avait plusieurs tentes à lui, les plus belles de la... Il aurait les palais. C'était le plus riche. Il avait des milliers de bêtes, c'était des immenses troupeaux, les plus beaux vêtements d'or, d'argent. C'était l'homme le plus riche. Et Juda, la parole de Dieu nous dit que le sceptre ne s'éloignera jamais de la tribu de Juda. Juda était une des tribus les plus importantes. Donc le prince de Juda était un des principaux chefs d'Israël. Un des hommes sur lesquels Josué s'appuyait. Un des plus proches de Josué. Un ministre d'État. Et voilà que ce Nachon, il a un fils... Salma, et voilà que ce fils, il s'éprend d'une pauvre petite dame d'un peuple rejeté, une prostituée. Je peux imaginer ce que Nachon a dû dire et sa femme à Salma. Mais tu t'es fou, quoi. Tu vas pas épouser cette dame, elle n'est pas d'Israël. Elle ne connaît rien à nos rites, à nos coutumes, à notre Dieu. Elle n'a pas de valeur, elle n'est pas noble. Épouse au moins une des filles d'Israël, même si tu peux épouser une des nobles, une des princesses de sang royal, au moins prends une jeune femme de quand même estimée, reconnue, et en plus tu vas prendre une prostituée, mais t'es fou quoi. Voilà ce que les parents de Nachon, les parents de Salma ont dû lui dire. Et Salma, il a dû dire, mais il y a quelque chose qui vous a échappé. Cette jeune femme, elle a appris à connaître son Dieu. Notre Dieu est devenu son Dieu. Notre peuple est devenu son peuple. Elle a appris nos coutumes, elle a appris à aimer notre peuple. Elle aime notre Dieu peut-être plus que quiconque au milieu de nous. Elle a découvert ce Dieu aimant. Elle craignait Dieu parce qu'elle connaissait la terreur de l'Éternel. Son peuple connaissait une chose, s'il n'aimait pas Dieu, il connaissait la terreur de l'Éternel. Ils avaient appris à craindre Dieu. Mais au-delà de la crainte, elle a appris à aimer Dieu. Ce Dieu qui l'a sauvé. Ce Dieu qui l'a intégré dans un peuple. Ce Dieu qui a sauvé toute sa famille. Ce Dieu au travers duquel elle a appris la fidélité. Ce Dieu est devenu son Dieu. C'est devenu une femme d'honneur, une femme respectable, une femme digne. Et je crois qu'elle sera digne d'être mon épouse. Et je crois qu'elle sera une maman magnifique pour nos enfants. Je crois qu'elle est digne de devenir princesse. Princesse. Vous croyez que c'est là ce qu'on a vécu? Qui aurait voulu de nous? Qui nous aurait choisis? Qui aurait trouvé qu'on était digne? Si quelqu'un avait vu Dieu et Dieu se penchait sur vous et commençait à pointer du doigt celui-là, et les anges, ils devaient dire, mais tu rigoles Seigneur, pas lui, pas elle. T'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu qui il est, t'as vu ce qu'il vaut, t'as vu ce qu'il est capable de produire. Que veux-tu tirer de bon de cette personne-là? Seigneur, regarde l'autre à côté, est bien meilleur. Il est bien mieux, tu en tireras beaucoup plus, tu iras beaucoup plus loin. Tu accompliras beaucoup plus d'exploits. Et le Seigneur dit, mais t'as pas bien vu, t'as pas bien regardé. Je l'ai lavé par mon sang, je l'ai aimé, je l'ai transformé, je l'ai revêtu de grâce. Vous savez que Salma, ça veut dire vêtement. Cette femme qui avait que des vêtements affriolants, qui peut-être des fois les enlevait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a épousé quelqu'un qui lui a donné des vêtements glorieux, des vêtements de riche, des vêtements de noblesse. Quand elle se promenait dans la rue, les gens disaient « Waouh, c'est la princesse !» Tout le monde s'arrêtait dans la rue. C'est la fille de Nachon, le prince de Juda, qui passe. Regardez les magnifiques robes qu'elle porte. Regardez ses vêtements. Regardez comme elle est revêtue de grâce et de gloire. Amen. C'est ainsi que nos vies se sont passées. Dieu a posé les regards sur nous. Il nous a vus dans notre sang, dans notre fange, dans notre boue. Il nous a lavés. Il nous a sanctifiés. Il a dit, je fais de toi une princesse et un prince de sang royal. Il y a un sang nouveau qui coule dans nos veines spirituelles. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous ne sommes plus des gens, des étrangers. Nous ne sommes plus des laissés pour compte et des laissés pour compte et des abandonnés. Nous sommes des gens de la famille royale. Nous sommes des gens revêtus de grâce, de vêtements de justice. Nous avons tous les vêtements du salut, tous, le pardon, la justice, la dignité, la valeur. Nous devons nous habituer à notre garde-robe royale. Parce que nous ne la connaissons pas, notre garde-robe. Qu'est-ce que vous avez comme habitude de garde-robe chez vous? Qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées par rapport à vous? Ça, c'est votre garde-robe habituelle. Je ne vaux pas la peine. Je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je ne pourrai rien faire. Dieu aura du mal avec moi. Dieu, tu ne pourras pas. Voilà notre garde-robe habituelle. Est-ce que vous avez la même garde-robe chez vous? Quand vous allez voir dans votre armoire, qu'est-ce que vous y trouvez? Ça m'étonnerait que vous... Waouh! Ça m'étonnerait que vous soyez très fiers toujours de ce que vous regardez chez vous. Eh bien, le Seigneur veut que nos regards changent et que nous habituions à notre garde-robe royale parce que nous avons appelé celui qui... nous sommes mariés avec celui qui s'appelle... Vêtements, je te revais. Je t'ai préparé des robes magnifiques. Si tu veux, rouvre l'armoire et regarde laquelle tu aimes, laquelle tu veux. Tu as besoin de quoi? Justice? Sainteté? Tu manques de sainteté? Puise, tu es saint, je t'ai revêtu de sainteté. Que veux-tu? De la gloire? Parce que tu te sens indigne, vil, faible. C'est normal puisque la parole de Dieu dit, j'ai choisi les choses faibles, les choses folles, les choses viles, les choses qui ne sont pas. Pour confondre celles qui sont, celles qui semblent avoir de la sagesse, celles qui semblent être fortes. C'est normal que tu ressentes ces choses-là. Il n'y a rien d'étonnant. La seule chose qui serait étonnante, c'est que tu le gardes. Parce que ton époux royal, il te dit, écoute, à un moment donné, ok, c'était ça. C'était ta garde-robe habituelle, je le veux bien. Je n'ai rien contre ta vieille garde-robe. Mais tu n'es pas obligé de la garder. Parce que j'ai bien mieux pour toi. Regarde la nouvelle garde-robe. Elle est à toi. Pourquoi? Parce que je t'ai épousée. Tu es devenue ma femme. Tu es devenue mon épouse. Et tu as le même rang que moi. Et je n'ai pas envie que quand on passe dans la rue, que mon épouse, on la regarde et qu'on voit ses haillons. Ou qu'on voit des vêtements qui ne sont pas plus à la mode. Ou des vêtements, jupe courte, etc. Tout ce que vous voulez, tout ce que je veux dire. Je veux que quand tu passes dans la rue, on voit mon épouse. C'est-à-dire que quand on te voit, on me voit. Et si toi, tu étais capable de le faire toute seule, ça se saurait. Tu n'en es pas capable. Tu ne le peux que parce que par la foi, tu saisis tout ce que je t'ai donné. Je t'ai revêtu. Tu as ma garde-robe. Et quand tu passes dans la rue, par la foi, on me verra moi. Amen. Dans Éphésiens 6, on lit, vous connaissez ce passage, hein? Éphésiens 5, 25, pardon. C'était plus rapide que moi, je lirais au tableau. Merci. Tu peux commencer au verset 23, je crois, ou tu sais quand on parle de... Je n'ai pas noté le verset. Comme l'Église se soumet à Christ, le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, l'époux, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. La première chose de l'épouse, c'est qu'il l'a sauvée, il l'a aimée, il l'a cherchée, il l'a voulu. Effectivement, pourquoi il fallait un sauveur? Parce qu'elle était... Elle était comment l'épouse? Perdue, souillée, salie, vile. Elle n'avait rien, rien pour plaire. Elle est comme l'époux, Jésus en a dit, il n'avait rien pour plaire, il n'avait pas d'éclat. L'épouse est pareille, il n'y avait rien. Après, il a aimé l'Église, excusez-moi, je n'ai pas en tête. Il a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, il l'a chérie. Amen. C'est ça que Jésus fait pour son épouse, qu'il aime et qu'il chérit à fond. Et juste une chose avant de terminer. Vous savez comment le Seigneur a construit le peuple d'Israël? Il a choisi d'abord un homme, Abraham. Il lui a donné une épouse qu'il a choisie. Il avait une épouse, la parole ne nous dit pas que c'est Dieu qui l'a choisie là. Par contre, il a eu un fils, Dieu lui a donné une épouse. Ce fils a eu un autre fils, Dieu lui a donné une épouse. Il a fallu 3 générations. Alors, puis au milieu, d'un coup, on arrive à 12 enfants de Jacob. Donc, il y a 3 générations, et d'un coup, 12, le Seigneur multiplie. et il bâtit une nation à partir de ces 12. Et vous voyez David ? David, il est le fils d'Isaïe. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Chronique 2, c'est rigolo quand vous le lisez, dans 1 Chronique 2, il y a marqué un fils, c'est le premier, puis le nom du deuxième fils, le deuxième, nom du troisième fils, le troisième, quatrième fils, quatre, jusqu'à David, le septième. La parole de Dieu montre bien qu'il y avait 7 fils. Et Isaïe était le fils de Ruth. Donc Isaïe est une génération. Ruth, sa maman, c'est une autre génération. Et Rahab, c'est la troisième génération. Le même schéma. À partir d'une tête qui n'est pas le mari cette fois, mais qui est Rahab. Quand vous lisez la généalogie, on voit le Seigneur précise Salma, mais il dit de Rahab. C'est Rahab qui est la tête de ce qui s'est passé. Ensuite, après Rahab, il y a Boaz, mais ce n'est pas Boaz tellement la tête. Boaz de Ruth, le Seigneur précise. Et ensuite, il y a Isaïe, troisième génération. Et ensuite, on arrive aux 7 fils. 12 fils, 7 fils. Vous vous rappelez, ça m'a fait penser au pain de la multiplication, aux corbeilles. Quand le Seigneur fait la multiplication, il ramène une fois 12 corbeilles, une fois 7 corbeilles. Le Seigneur a construit au travers d'Abraham un peuple, à travers des 12 fils de Jacob. Et qu'est-ce qu'il a construit au travers de Rahab ? Nouvelle tête de lignée, une dynastie royale. 7 fils. Parce qu'il y a David, mais David, avec tous les autres, ils étaient les ministres d'État. Une dynastie royale, des princes. Et qui c'est qu'il a choisi pour démarrer une dynastie royale ? Une Rahab. Une Rahab. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur veut démarrer au travers de nos vies des dynasties royales. Au travers de l'Église, le Seigneur est en train de démarrer un peuple, comme les 12 fils de Jacob, mais il démarre aussi une dynastie royale. C'est-à-dire que nous sommes appelés à régner avec Christ. Nous régnerons avec Christ. Et le Seigneur va chercher Rahab. Et Rahab, elle a sauvé toute sa famille avec elle. Quand le Seigneur te choisit, il choisit ta famille avec toi. Il prend toute ta famille, tous ceux qui rentrent dans ta maison, tous ceux sur lesquels tu prononces le salut. Tu prononces leur nom devant le Seigneur et le Seigneur les appelle au salut. Il va sauver toute ta descendance. Et au travers de ta descendance, il va construire une dynastie. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont servir Dieu au travers de son onction. Amen. Voilà le regard que Dieu, que Rahab nous donne. Le Seigneur a créé un livre sur Ruth. Je crois qu'il aurait pu écrire un livre sur Rahab. Il ne l'a pas fait, je pense, parce qu'il nous laisse la chercher, cette histoire. Mais laissons-nous encore travailler, parce que Rahab nous représente. Elle nous parle de nous-mêmes. Alléluia, Seigneur. Et vous savez, je termine juste par ça, elle est dans les héros de la foi. Je l'ai déjà dit dimanche, je le rappelle aujourd'hui. Dans les héros de la foi, il y en a plein qui n'y sont... le nom apparaît tout juste, il y en a qui le nom apparaît même pas. Vous savez que Josué n'y est même pas. David apparaît comme juste le nom. Samson, les prophètes, le nom n'y est même pas. Ils sont un nom générique, les prophètes. Il n'y a que Abraham, Noé, Moïse, et il y a Rahab dans les héros de la foi. Je le redis parce que elle est notre témoin. Et elle est témoin, un témoin qui veut nous parler aujourd'hui. Et elle nous dit, si moi j'étais dans la galerie des hommes de la foi, moi une femme, moi une prostituée, moi qui ne suis pas du peuple d'Israël, moi qui n'avais rien à attendre de la vie, toi aussi, tu es appelé à être dans la galerie des hommes et femmes de la foi. Seigneur, on te loue pour Rahab. On te loue parce que nous reconnaissons une destinée glorieuse, et c'est la nôtre. Seigneur, prie de notre poussière et de notre boue, indigne de quoi que ce soit. Même aujourd'hui, même après, Seigneur, notre service, que pourrions-nous être dignes ? De quoi pourrions-nous nous vanter ? Seigneur, si tu nous lâches, si ton onction s'enlève, nous retournons à notre boue, nous retrouvons notre poussière et notre fange. Nous n'avons rien de nous-mêmes, nous n'avons rien par nous-mêmes, nous ne sommes rien par nous-mêmes. Par notre propre nature, nous sommes faisant partie d'un peuple rejeté, nous sommes rejetés au milieu de ce peuple rejeté. Nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit, par nous-mêmes. Seigneur, mais comme Rahab, nous croyons que tu nous as aimés. Tu nous as choisis pour le salut. Tu as mis sur nos vies ton sang qui nous a lavés, restaurés, réconciliés avec toi. Et tu nous as mis et installés dans une position de gloire, d'épouse du Fils de Dieu. L'épouse du Fils de Dieu. Oh, je suis l'épouse du Fils de Dieu. C'est moi l'épouse. Je suis la femme du bien-aimé, du fils du roi. Je suis aimée et chérie. Il m'a revêtue des vêtements du salut. Il m'a couvert de gloire. Et je suis digne de marcher sur cette terre en son nom et de porter son nom dans des maisons et de devenir comme les espions et d'aller chercher les Rahab de cette société qui sont perdues et de sauver au travers de Rahab des familles. Et nous disons que Seigneur, tu mets sur nous une onction d'espion pour aller et trouver les Rahab au milieu, autour de nous et de les sauver avec leur famille. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur. Amen.